Une petite halakha pour commencer. Dans les lois de Shabbat, peut-on réparer des lunettes qui se sont cassées Shabbat ?
D'accord.
Elle se casse. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Est-ce qu'il peut la réparer ou pas ? Alors, si vous m'avez répondu oui, donc je ferme le livre et à la semaine prochaine. Qui m'a dit oui ? Bon, alors. Alors, on va y aller. C'est pas chout. Ça se trouve dans les Siman Shin Yud Gimel, dans le chapitre de 313. Si ça vous dit quelque chose. Il parle là-bas de construire et détruire. La permission et l'interdiction de construire et détruire. Binyan Vestira. Alors. La Torah interdit une construction définitive. Ou alors une destruction à condition de construire. D'accord ? Si vous construisez pas de façon définitive, ou vous détruisez pas dans l'intention de construire dessus, ça n'est interdit que de Rabbanan. L'interdiction n'est que de Rabbanan. C'est d'ailleurs la explication chassidique, comment le bon Dieu a pu se permettre de détruire le temple. Il y a une interdiction de détruire. Maltachrit. Vous n'avez pas le droit de. Quand vous avez une ficelle, par exemple, faut pas la déchirer, il faut l'enlever. Quand vous avez un papier, il faut l'ouvrir, il faut pas le déchirer. C'est pas une bonne psychologie que de détruire. Donc. Mais même si vous détruisez, vous n'avez le droit de détruire que si vous avez de la même façon que Shabbat, si vous détruisez dans l'intention de construire dessus, vous avez fait une interdiction de Shabbat. Vous auriez dit, mais j'ai rien fait, j'ai détruit. J'ai détruit parce que tu veux construire dessus. Donc tu as transgressé Shabbat. Et alors, si tu as détruit Stav pour détruire, tu n'as transgressé qu'une interdiction de Rabbanan. D'accord, alors là. Chassidut, elle dit comment Dieu a pu se permettre de détruire le temple, c'est que justement, il avait l'intention de le construire mieux que ça, de nous enlever le deuxième pour nous apporter un troisième meilleur, mieux que ça. Même si à un court instant s'est passé entre la destruction du deuxième et du troisième, un court instant de 2000 minutes. Donc, Bekitsur, de cette loi-là, de détruire, construire, on apprend, on déduira d'autres halakhot. Donc maintenant, dans l'histoire des lunettes. Les lunettes s'appellent un keli. C'est un instrument. C'est pas quelque chose qui est anonyme, c'est un instrument. Donc, comme il est un instrument, s'il se détruit malgré tout, enfin, pas, par le hasard des choses, on ne parle pas de quelqu'un qui l'a fait tomber, on parle que vous l'avez fait tomber, sans faire attention. Alors, si vous le reconstruisez, c'est-à-dire vous réparez la lunette d'une façon définitive, d'une façon qui serait la même façon l'opticien vous l'aurait réparé, alors là, vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous avez le droit, le clal, il est de réparer une lunette que si vous, soit elle a l'habitude régulièrement de tomber, par exemple un verre qui tombe tout le temps, vous le remettez tout le temps, donc c'est comme si en quelque sorte il est démontable, et donc vous ne construisez pas, puisqu'il est lui-même en train d'être là quelques instants, mais il va retomber plus tard. Donc il n'y a aucun problème, que ce soit la branche ou le verre, s'il a l'habitude de tomber, que vous le remettez. Donc, vous pouvez faire ça aussi Shabbat. Maintenant, si c'est exceptionnel, vos lunettes sont de bonne qualité, rien n'est tombé, et ça vous arrive Shabbat, alors vous ne pouvez le faire que si vous le faites de façon artisanale. C'est-à-dire que ça va tenir jusqu'à dimanche d'aller chez l'opticien, quoi. Mais par contre, une vraie réparation, c'est-à-dire prendre un tournevis, ou même un clongue, peu importe, et revisser de façon à ce que ça tienne pour de bon, ça, vous ne pouvez pas faire ça Shabbat. Vous pouvez faire ça de façon, le Chazon Ish, je vous dis, vous pouvez faire ça de façon rafouille. De façon, comment dire, rafouille. Rafouille, le monde entier nous entend, vous ne savez pas traduire rafouille, de façon faible, voilà. Une réparation faible, pas une réparation solide. Voilà, donc ça c'est le klal des lunettes. Rappelez-vous de ce klal, ce principe des lunettes. Rafouille c'est de l'arabe. Comme les Israéliens adorent parler en langue qui n'est pas hébraïque, alors ils utilisent tout le temps des mots ou latin, ou arabe, ou anglais. Mais c'est pas de l'hébreu. Comment? Mabsout, ça veut dire être heureux en arabe. Mais en hébreu, on dit meroutse. Alors, ne vous trompez pas. Donc, première halakha, ok? Donc, deuxième halakha, dans le même domaine aussi, complètement différent, mais ça profère de la même halakha. A-t-on le droit d'ouvrir des boîtes de conserve ou alors des boîtes de conserve ou alors d'ouvrir des canettes de Coca-Cola ou de bière ou alors de déchirer des papiers par exemple pour prendre du lait par exemple. Vous voyez un pack de lait. Est-ce que vous avez le droit de faire ça Shabbat? D'accord? Alors, comme c'est la même chose, c'est le même principe de fabriquer ou de ne pas fabriquer un keli, alors il y a toute une discussion qui est partie de la... Alors il y en a qui interdisent carrément toutes les formes d'ouverture de boîtes et de sacs plastiques qui interdisent formellement et qui disent qu'il faut les ouvrir avant Shabbat. Bon, donc, je souhaite du courage d'ouvrir des canettes de bière avant Shabbat. L'homme est chané, il y en a qui l'interdisent entièrement. Et donc, même du lait, quoi. Vous voulez ouvrir votre sac kit de lait, il y en a qui interdisent ça aussi. Ça c'est la chita du Chazon Ish, donc les gens très rigoureux qui font attention à ça et qui sont même tellement enquiquinants que si vous avez ouvert la chose, ils la consommeront pas, quoi, parce que c'est d'après eux le produit d'une interdiction de Shabbat. Donc les olives que vous avez servies sur la table, puisque vous avez ouvert la boîte d'olives dans la cuisine, donc elles sont le produit d'une interdiction shabbatique. Donc c'est une chita très très rigoureuse. D'accord? Bon, alors ça a eu une mode, il y a une grande mode, on a fait suer le monde avec ça. Jusqu'à ce que viennent évidemment les gens intelligents, qui pensent que la Torah est de ce monde-là et pas pour les anges, et qui considèrent que si ce keli que vous avez, entre guillemets, fabriqué, vous n'avez pas l'intention de le garder. Vous avez l'intention de vous débarrasser de lui, ou alors de le donner à des institutions de pauvres qui récupèrent les boîtes, les canettes de bière à 25 agourottes la consigne. Donc vous n'avez pas l'intention de le garder pour vous, ça ne vous intéresse pas. Vous avez l'intention de vous en débarrasser. Donc au moment même où vous l'ouvrez, il n'a pas un statut de fabrication de keli, puisqu'il n'est pas pour vous un keli. D'accord? Par exemple, moi j'ai un tic, c'est que je ne jette rien. Je ne supporte pas le gaspillage. Donc quand je veux réparer un livre, par exemple, il y a une excellente couverture pour servir de couverture de livre, c'est les packs de lait. Ouvrez le pack de lait une fois qu'il est vide. Vous avez un magnifique papier d'aluminium. Et vous pouvez couvrir avec des livres. J'ai couvert des livres qui sont 20 ans, qui ne bougent pas. Donc, j'ai donc transformé le keli en papier. Donc, c'est automatiquement. J'ai donc annulé à l'origine sa vocation première qui était d'être un récipient pour en faire du papier. Donc, que vous le jetiez à la poubelle ou que vous fassiez comme moi pour éviter le gaspillage, vous n'avez donc pas fait un keli, puisque pour vous, ça n'est pas un keli. Et le Rav Shlomo Zalman Auerbach, qui explique ça et qui permet donc d'ouvrir toutes ces boîtes de conserve, etc., il amène un exemple justement de, dans la Gemara, où quelqu'un, il livrait des boissons aux gens, et il leur donnait avec le, il leur vendait avec le, l'ustensile en argile. Et les gens cassaient l'ustensile et ils prenaient le contenu. Puisqu'il n'y avait pas de consigne. Ou alors ils mettaient ça sur un âne et le mouvement de l'âne faisait que ça risquait de se casser. Et c'était pas important pour lui. Donc on voit que il y a une origine à ça, qu'à partir du moment où chez vous, vous n'avez pas du tout l'intention d'en faire un clic, alors il n'a pas le statut d'un objet que vous avez fabriqué, et donc vous pouvez l'ouvrir Shabbat. Donc il n'y a pas besoin de faire un trou en haut, un trou en bas, etc. D'accord? Donc on voit que la construction de la halakha dans le judaïsme, c'est un truc qui prend du temps. Pendant des années, il y a eu cette mode-là d'interdire. Et on voit qu'aujourd'hui, au fil du temps, la tendance va à l'assainissement de la halakha dans ce domaine. Vous avez compris? Surtout que ce que vous faites là, c'est pas une construction, vous faites une destruction. Si vous ouvrez la canette de Coca-Cola, une fois que vous l'avez ouverte, ça y est, elle est inutilisable. Vous ne pouvez plus rien faire avec elle. Elle est coupante, etc. Donc c'est sûr que vous allez la jeter. Alors il y a des gens rigoureux qui s'amusent à l'écraser une fois qu'elle est finie pour bien montrer leur volonté de ne pas s'en servir. Mais comme il y a des institutions qui ont besoin d'argent et que ces canettes valent 0,25 agourotes, ne les jetez pas, apportez-les nous. Il y a des maisons de vieux et des Talmud et Torah qui vivent que de ça. Des 25 agourotes de chaque bouteille ou de chaque canette. Voilà. Donc en même temps que vous ouvrez la bouteille, vous faites une tzedaka, quoi. Pas de questions? Bon, pareil pour les sacs de lait, d'accord? Les sacs de lait, c'est pas parce qu'il y a certaines personnes qui gardent les sacs de lait vides, hein, qui en font des, qui mettent dedans des pièces, ou qui mettent dedans des, c'est pas parce qu'il y a des gens qui sont un peu curieux, je me rappelle en France, il y avait des gens qui disaient, il y avait certains bachouré et chivotes qui n'avaient pas d'argent pour s'acheter une chanoukia. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ingénieusement, ils gardaient les bouchons de Coca-Cola, et ils s'en servaient comme godet pour faire la chanoukia avec. Alors il y a des rabbinim qui disaient, voyez bien que le keli est un keli. Alors, d'abord, on ne fixe pas la halakha après des hurluberlus. On ne fixe pas la halakha après des gens exceptionnels. Aleph. Et bête, comme dit le Rav Moshe Feinstein sur un autre domaine. Le Rav Moshe Feinstein vous dit, par exemple, si vous avez une boîte de Nescafé, un pot de Nescafé en verre, ou alors une bouteille en verre, et vous voulez la garder, vous voulez pas la jeter, vous gardez le pot de Nescafé pour faire des confitures avec, ou mettre du riz, ou mettre du café noir, du café sec. Alors il y en a qui disent que si vous le gardez, il faut le tremper, puisque le Nestlé, quand ils vous ont fait le café, les goïms qui ont fait qui ont fait le flacon, ils n'ont pas trempé au mikvé. Donc à partir du moment où vous gardez le flacon, donc c'est comme si vous aviez acheté un keli d'un goy. Et donc, il faudrait tremper le keli d'après ça. D'accord? Alors, donc la réponse, elle est que, à partir du moment où, à une occasion pas forcément lointaine, vous allez jeter ça là, vous allez le jeter, vous n'avez pas l'intention ad aeternam de garder ce flacon. Vous le gardez maintenant, mais par exemple, avant Pessah prochain, ou quand vous aurez une promotion de vaisselle quelque part, vous allez jeter tout ça. Donc, puisque vous n'aviez pas l'intention de le garder, même si vous le gardez 20 ans, puisque vous n'aviez pas l'intention de le garder, vous n'avez pas besoin de le tremper non plus. Pourquoi? Parce que, à l'origine, quand le goy vous a vendu le café, Nestlé ne vous a pas vendu le verre. Il vous a vendu le café. La preuve, c'est que vous avez deux options, soit en verre, soit en fer, ou soit en sous vide. Donc, puisque Nestlé vous offre trois options, et que c'est pas à cause du verre qui vous vend le café, c'est à cause du café. Donc, le keli lui-même n'est pas considéré par le goy quand il vous le vend. Donc, il vous vend pas un keli, il vous vend un café. Eh bien, comme il faut le mettre quelque part, il a mis dans du verre, mais il aurait pu le mettre dans de l'aluminium ou un autre arrangement. Donc, déjà au niveau du goy, il ne considère pas ça comme un keli. Et ensuite, à votre niveau à vous, vous ne le considérez pas comme un keli, puisque à une occasion quelconque, vous allez vous en débarrasser. Et donc, c'est la même chose que le sac en plastique de lait. Étant donné qu'il y a quelques gens un peu bizarres qui gardent le sac en plastique de lait, ou qui garde la boîte de chocolat pour mettre des crayons dedans, par exemple. Mais un temps viendra où ils vont jeter tout ça. La plupart des gens, surtout aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'abondance et donc du gaspillage. Va venir un temps où vous allez jeter tout ça, donc c'est pas un keli auquel vous tenez, et donc il n'a donc ni besoin d'être trempé, ni de problème d'être ouvert pendant Shabbat. Je vous remercie de votre attention. Pas de questions? Bravo. Donc. Le truc en... Pourquoi pas? Si vous en servez. Ce qu'on n'a pas le droit à Shabbat, c'est d'utiliser un keli dont on ne se sert pas. Par exemple, les gens qui mettent des lunettes de soleil rien que pour le fun, rien que pour faire bien, et qui n'ont absolument pas besoin de lunettes de soleil. Alors, dans un endroit où il n'y a pas de héros, c'est un problème, puisqu'ils utilisent un keli sur leur nez alors qu'ils n'en avaient pas besoin. Maintenant, si vraiment vous êtes sensible au soleil, et que ça vous dérange, alors vous n'avez aucun problème même de le rajouter dessus, puisque vous ne le montez pas, puisqu'il n'est pas, il est démontable. J'espère bien. Il n'y avait que Ray Charles qui gardait ses lunettes noires, même sur la scène. Allez, on y va. Parashat Dvarim. La Parashat Dvarim est toujours lu juste avant la fête admirable et remarquable et inoubliable de Tisha B'Av. D'accord? Toujours le... Pardon? J'ai toujours l'habitude de préciser ce que je dis. Je ne suis pas encore gâteux. Donc si je vous ai dit une fête, c'est qu'une fête. Surtout qu'il n'y a pas que vous qui m'entendez, il y a des centaines de gens à travers le monde. On n'est pas à la radio, il y a quelqu'un derrière la vitre qui écoute mot à mot pour les erreurs. Quand la journaliste, elle dit il est 10h15, 3 secondes après, ils coupent la musique pour dire non, vous avez retenu qu'il est 9h15. Donc je n'ai pas besoin de souffleur pour l'instant. Le jour où je serai gâteux, j'éviterai d'enseigner trop de bêtises. Donc ça s'appelle une fête. Dans les lamentations, ça s'appelle Echa, ça s'appelle Moed, la fête. C'est pour ça qu'on fait pas Tachanoun, c'est pour ça qu'on ne fait pas Tachanoun, parce qu'on considère que ça va être un jour une fête. Ça sera transformé en fait. Voilà. À l'origine de Tisha B'Av, c'était le jour où les Bnei Israël auraient dû rentrer en Eretz Israël. C'est le jour où les Meraglim, c'est ce que d'ailleurs traite la paracha, la Rambam Dvarim, c'est le jour où les explorateurs sont revenus de leur voyage, le 9 Av. Sacrée date. Donc ça aurait dû être un jour de fête, puisque ils auraient dû, quelques jours après, prendre la bonne décision de rentrer en Eretz Israël. Alors c'est pas parce qu'à travers l'histoire on l'a raté comme fête qu'elle ne garde pas son statut de fête. Vous voyez ? C'est une fête qu'on n'a pas encore l'occasion de célébrer comme elle est, mais en vérité c'est une fête ratée, quoi. Donc toujours Tisha B'Av, avant Tisha B'Av, on lit la paracha de Dvarim. Et la paracha de Dvarim, justement, si vous l'avez lu, presque entièrement, elle parle de la relation du peuple juif avec la terre d'Israël. L'essentiel de la réprimande de Moshe Rabbeinu, puisque le livre de Dvarim, c'est un livre de réprimande, il rappelle tout ce que le peuple a fait dans le désert pendant 40 ans, parce que là, on arrive à la fin des 40 ans, et donc la plupart des réprimandes vont être liées avec le refus du peuple de rentrer en Eretz Israël, et de dire qu'est-ce qu'ils ont raté par là. Ils ont raté beaucoup de choses. Et presque toute la paracha parle de ça, de l'importance d'Eretz Israël par rapport au peuple juif. C'est pour ça que les malheurs de Tisha B'Av, comme vous dites qu'on ne fête pas, qu'on ne fait que mentionner, sont liés toujours avec, à l'origine, avec des malheurs qui se sont passés en Eretz Israël. Avant de rappeler que le Tisha B'Av, c'est le jour de la guerre 14 qui a commencé, ou le jour de l'expulsion des Juifs de France, ou le jour de la lettre de Madame Isabelle la catholique, etc. Avant tout ça, le 9 Av, c'était d'abord la destruction du premier et du deuxième temple. D'accord ? Ça veut dire que l'essentiel du drame, c'est un drame qui est lié avec le principe de refuser Eretz Israël. Refuser de réaliser la parole de Dieu en Eretz Israël. Et c'est pour ça que Moshe leur dit, je vous ai bien prévenu, Rav Lachem Shevet Baharazé. Ça suffit de camper sur la montagne. Les Bnei Israël ne voulaient pas arrêter de camper sur la montagne, ils étaient bien au Sinaï. Donc ils ont campé au Sinaï, ils ont reçu la Torah, et après l'épisode du veau d'or, ils ont dû faire Tshuva jusqu'à Yom Kippour, et ils ont construit le Mishkan, etc. Donc ils sont restés très longtemps au Sinaï. Et donc ils avaient l'intention de rester là, ils étaient bien là. Et Moshe leur dit, je vous ai prévenu, Rav Lachem, ça suffit pour vous, Shevet Baharazé, de séjourner devant cette montagne. Et donc le Midrash rapporte que Moshe leur a dit que la raison pour laquelle on vous a donné la Torah, c'est de la réaliser maintenant en Eretz Israël. C'est la raison pour laquelle on vous a donné la Torah. Et donc qu'est-ce que vous me faites? En plein milieu, vous refusez ce programme. Vous refusez ce programme. Donc vous acceptez la Torah, mais vous n'acceptez pas de la réaliser en Eretz Israël. Donc, comme on dit en français, il y a un bug. Il y a un bec en français. Il y a un bec. Et toute la paracha de Dvarim est une réprimande sur le rapport des Bnei Israël avec la terre d'Israël. Et aussi curieusement que cela puisse vous paraître, c'est écrit dans les livres que l'essentiel de la galoute, n'est pas la relation du peuple juif avec les goïms. C'est pas ça la galoute. C'est pas que les Babyloniens aient voulu détruire le temple, ou que les Romains aient voulu détruire le temple. C'est pas ça qui dérange dans la galoute. C'est la relation des juifs avec eux-mêmes qui dérange. Les livres, nos saints livres nous disent que l'essentiel de la galoute, c'est la réparation de la relation entre juifs. C'est elle, la galoute. Et que la relation contrariée avec les nations, c'est qu'une conséquence de cette relation contrariée entre nous. Non, c'est vieux, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Bien sûr, c'est encore vrai, ce n'est que vrai aujourd'hui. Je vous fais pas un cours d'archéologie, je vous fais un cours d'histoire et de journalisme. Absolument que c'est vrai aujourd'hui. Mais ça n'est que vrai aujourd'hui. On voit que un événement intéressant. Monsieur Katsav, le président de la République israélienne, président de l'État, il était en visite chez le Rabbi, quand il n'était que ministre du transport. Et le Rabbi restait à parler avec lui plus d'une demi-heure. Le Rabbi, qui est un prophète, savait que M. Katsav serait autre chose qu'un simple ministre des autobus, qui deviendrait quelqu'un d'important, et effectivement, par providence, il est devenu président alors qu'il ne revient pas du lettre. Donc, le Rabbi lui a donné des clés là-bas. Et comme M. Katsav, comme tous les hommes politiques, se croient très intelligents, donc vous le voyez dans le film, il acquiesce avec un grand respect, comme savent le faire les juifs traditionnalistes du rabbin, et d'ailleurs de dire, pauvre vieux clown, pauvre vieux schnock, tu dis des bêtises, mais c'est pas grave, parce que, comme je te respecte, parce que t'es un vieux, mais en réalité, ce que tu racontes, c'est n'importe quoi, mais c'est pas grave, Alors vous voyez sur le film, le rabbi lui parle, il donne des clés fondamentales, et l'autre lui fait oui, de l'air de dire, cause toujours. Et il lui dit, entre autres, le rabbi lui dit, parce que Katsav lui dit, vous savez, il y a eu la guerre de l'Irak, et le rabbi lui dit, non, c'est l'Iran. Le danger, c'est l'Iran. Et lui, il dit, oui, mais il y a eu l'Irak, et le rabbi dit, non, mais c'est l'Iran qui est important. Et Katsav lui dit, oui, mais c'est l'Iran, c'est ça, c'est l'Iran. Alors, 15 ans après, je ne sais pas combien d'années après, enfin, ces grands sages qui nous dirigent se sont rendus compte qu'effectivement, l'origine du mal dans le monde venait de l'Iran qui subventionne tous les mouvements terroristes du monde. Donc, première remarque intéressante, mais le rabbin lui dit autre chose d'intéressant. Il lui dit, si vous ne proclamez pas que la terre d'Israël nous appartient, enfin, c'est la seule façon de régler le problème avec les Palestiniens. Si vous ne proclamez pas que la guerre nous appartient, la terre d'Israël nous appartient, il lui dit, vous avez étudié l'histoire. Quand il dit ça, c'est-à-dire que sûrement qu'il n'a pas étudié, mais c'est pas grave. Il dit, vous avez sûrement étudié l'histoire et vous savez que chaque fois qu'un peuple a envahi un pays, il a toujours perdu la guerre. Tout peuple qui est envahisseur perd. L'automatique. Il gagne militairement au début, et après il perd. Il se fait noyer par le pays dans lequel il arrive. Et le rabbi lui dit, et vous voyez d'ailleurs depuis 50 ans, que les Français ont perdu en Algérie, que les Anglais ont perdu en Inde, que les Belges ont perdu au Congo, etc. Chaque fois qu'une puissance énorme va dans un pays, même s'il est nul, elle perd. Donc si vous ne dites pas que la terre est à vous, mais que la terre est à eux, donc, automatiquement, vous avez déjà signé que vous allez perdre la guerre, puisque vous êtes un occupant. Vous avez compris? Et donc, c'est un clal, toujours, dans l'histoire, que l'occupant, automatiquement, va perdre, même s'il est armé jusqu'aux dents, s'il a de l'argent et les moyens de suivre. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire de la destruction du temple? Dans la destruction du temple, vous avez une règle historique qui est fausse. C'est que pour la première fois, l'occupant a gagné. La première fois et la seule fois que l'occupant a gagné. Il a tout gagné. Il a réussi à écraser le peuple, il a réussi à détruire le temple et les villes d'Israël, et il a réussi à les chasser d'Israël. Jamais on n'a vu ça. Vous avez compris ? Les Juifs ont été chassés après ils sont partis d'Israël après les Romains. Il restait des petits petite implantation comme ça. Et donc c'est le premier miracle à l'envers, c'est de voir que la première fois qu'un occupant a réussi à chasser le peuple occupé. Pourquoi ils ont réussi? Parce que pour la deuxième raison, qui fait que même militairement, les Romains n'auraient jamais dû gagner la guerre. Militairement, les Romains n'étaient pas intéressés à faire la guerre ici. Ils n'avaient même pas assez de garnison d'ailleurs. Donc, ils avaient très peu de soldats, ils ont quand même gagné la guerre. Contre des gens qui étaient très forts. Donc la seule raison qu'on peut expliquer, c'est une raison inexplicable, c'est là ce qu'on appelle, dans le judaïsme, la sinatrina, la haine gratuite entre les juifs. C'est la haine gratuite entre les juifs qui a fait gagner les Romains. Parce qu'ils n'avaient aucune raison de gagner, ils n'étaient pas assez nombreux, assez motivés en plus. C'était pas le César lui-même qui est venu faire la guerre. C'est des gens qu'on a déplacés de Rome, des pays avoisinants. On leur a dit, bon, allez, il n'y a pas assez de soldats ici, venez là-bas, vous allez faire la guerre ici. Donc ils venaient ici, mal payés, mal reçus, donc ils auraient dû perdre la guerre. Donc ils étaient en petit nombre, et dans des mauvaises conditions, ils ont quand même gagné de façon triomphale la guerre. D'accord ? Et donc les divisions internes entre les juifs ont fait que non seulement ils ont perdu la guerre, mais en même temps ils ont parti aussi. Quand il y a une bagarre entre deux personnes, c'est pas qu'à la fin de la bagarre, il y a une personne qui va rester, l'autre va partir. À la fin d'une bagarre, les deux s'en vont. Vous n'avez pas remarqué ça? Dans une bagarre, c'est toujours comme ça. Vous avez l'impression que l'un va gagner et l'autre va partir. Quand vous observez la bagarre à long terme, vous voyez que, en fait, les deux sont partis aussi. C'est-à-dire que la dissension fait qu'il y a aussi une séparation des corps. Les gens s'en vont. Et donc les Bnei Israël ont perdu la guerre et au fur et à mesure, ils ont été chassés d'une façon rejetés par la terre. Ils ont quitté la terre. Et il n'y avait pas de raison, puisque les Romains, au fil du temps, à part la révolte de Bar Corva qui a fait beaucoup de sang, les Romains étaient de plus en plus mous. Donc ils auraient pu au contraire revenir et s'installer, se réinstaller en Israël, les Bnei Israël. Or ils ne l'ont pas fait. Au contraire, ils ont